Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 novembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz ont été interpellés par la police. Des heurts entreposés aujourd'hui à Dakar, leurs partisans aux forces de l'ordre. Au Burkina Faso, l'audition du général Diendéré, un des témoins clés dans le procès Sankara, s'est poursuivie aujourd'hui. L'Éthiopie retient 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial dans le Nord, en guerre. Ici aux États-Unis, un tribunal autorise la transmission au Congrès de documents de l'ancien président Donald Trump sur l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Sénégal, les deux opposants, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, ont été interpellés aujourd'hui à Dakar lors de troubles sur la route du tribunal où M. Diaz devait comparaître, ont indiqué un porte-parole du parti de M. Sonko et un avocat. Nathalie Barge.
Barthélémy Diaz, candidat à la mairie de Dakar, était en route pour le tribunal ce matin en compagnie d'Ousmane Sonko et de centaines de partisans. Il devait répondre en appel de la mort d'un homme abattu lors de l'assaut de sa mairie de Sacré-Cœur-Mermoz en 2011. La progression du convoi dans les rues de Dakar a donné lieu à des affrontements entre des partisans des deux hommes et les forces de l'ordre. Ousmane Sonko, porte-parole du PASTEF de M. Sonko, a indiqué que les deux opposants ont été interpellés. Maître Kouressiba, avocat de M. Sonko, a confirmé l'information. Entre-temps, la cour d'appel de Dakar a siégé en l'absence de Barthélémy Diaz et décidé un énième renvoi de l'affaire au 1er décembre. M. Diaz a été condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il avait fait appel de sa condamnation, invoquant la légitime défense.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés dans le dossier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, a continué son témoignage aujourd'hui. Il avait déjà plaidé non coupable hier lors de sa première comparution. Il a campé sur sa position. Notre correspondant dans la capitale burkinabé, Lamine Traoré, nous en dit plus.
Aujourd'hui, ce sont les avocats de la partie civile qui ont auditionné le général Gilbert Diendéré, lieutenant et patron de la sécurité du Conseil de l'Entente au moment des faits. Les avocats veulent situer la responsabilité du général. Pourquoi il n'a rien fait pour assurer la sécurité du Conseil de l'Entente alors que Thomas Sankara et bien d'autres leaders de la révolution y étaient en réunion? L'ancien avocat. La sécurité qui était au Conseil, c'était pour protéger le Conseil d'attaques extérieures, mais pas une attaque de l'intérieur, répond Gilbert Diendéré. Pourquoi après les événements, vous n'avez pas procédé à l'arrestation des soldats qui ont assassiné le président et 12 autres? Lui demande l'avocat de la partie civile. Thomas est mort, Gilbert Diendéré arrête Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Lengani. C'est pour que j'aille moi-même à la radio annoncer que j'ai pris le pouvoir? C'est interroger le général à la barre, et puis moi lieutenant à l'époque. Pensez-vous que je pouvais procéder à l'arrestation du capitaine Blaise Compaoré, le commandant Jean-Baptiste Lengani? Mes chefs, je leur ai fait le point de la situation. C'est suffisant. C'est défendu le général. Moi, en venant ici, je pensais que le général Diendéré, qui n'est pas n'importe qui, un chef militaire, allait assumer les faits. Lance maître Alexandre Zepa, de la partie civile. Oui, c'est bien moi, le général Gilbert Diendéré. Maître, vous êtes venu avec des idées arrêtées sur moi. Je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas fait. Même étant militaire, comme vous le dites, vous voulez entendre de ma bouche que c'est Blaise Compaoré qui m'a envoyé. J'ai dit non, non et non. Réagit de façon catégorique, le général d'un ton élevé. L'audition du général se poursuit. Sa défense devrait prendre la parole après les avocats de la partie civile. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au moins 1300 civils ont été tués en RDC, dans les territoires de Beni et Irumu, dans l'est et le nord-est du pays, depuis l'instauration de l'état de siège au mois de mai, selon un rapport publié par des élus de la région. Cette enquête intitulée « Rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu » appelle à la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante afin d'identifier clairement les vrais bourreaux et à la mise en place d'une cour pénale internationale pour la RDC. Les provinces du Kivu et de l'Ituri sont en proie aux violences depuis près de 25 ans en raison de la présence de nombreux groupes armés locaux et étrangers. Des opérations militaires y sont menées sans mettre fin à l'activisme de groupes armés. Au Cameroun, une bombe a explosé aujourd'hui dans un amphithéâtre de l'université de Boya. 11 étudiants ont été blessés selon le recteur de l'université. L'engin explosif improvisé a été jeté dans un amphithéâtre par un individu non identifié. Les étudiants sont actuellement pris en charge. C'est la seconde explosion en l'espace d'une semaine à Boya. La dernière s'est produite dans un taxi. L'ONU a affirmé aujourd'hui que l'Éthiopie retient 72 chauffeurs du Programme alimentaire mondial dans une ville du nord du pays située sur la seule route permettant l'acheminement d'aide humanitaire au Tigré, région ravagée par la guerre et la famine. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Les Nations Unies ont confirmé l'arrestation et la détention de 72 de ces chauffeurs contractuels à Semera, capitale de la région Afar et à un peu moins de 500 km au sud-est de Mekele. Ces détentions interviennent au lendemain d'arrestation de 22 employés éthiopiens de l'ONU. Ces employés ont été arrêtés après un vaste coup de filet ciblant des Tigréens à Addis Abeba. 6 d'entre eux ont été libérés, mais 16 sont en détention, selon le porte-parole de l'ONU à New York, Stéphane Dujarric. Ces arrestations font suite à l'état d'urgence décrété la semaine dernière par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les combattants rebelles ont menacé de marcher sur la capitale. Les efforts diplomatiques menés notamment par les États-Unis, l'Union africaine et l'ONU se sont intensifiés pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.
L'ancien ministre des Finances mozambicain Manuel Chang, détenu en Afrique du Sud, sera extradé aux États-Unis pour être jugé dans le scandale de la dette cachée portant sur des prêts secrets d'1,8 milliard d'euros, a annoncé aujourd'hui la justice sud-africaine. L'actuel président Philippe Nyusi, alors ministre de la Défense, a été cité dans plusieurs témoignages. Il a été assigné en octobre devant un tribunal à Londres. Des procédures concernant cette affaire sont aussi en cours en Suisse et en Afrique du Sud. L'explosion d'un camion-citerne la semaine passée en Sierra Leone a fait 131 morts, selon un nouveau bilan communiqué ce mercredi. La présidence sierra-léonaise a marqué de son côté par une cérémonie dans l'après-midi la fin des 3 jours de deuil national. Le drame est survenu vendredi quand un camion-citerne percuté par un autre poids lourd à une station essence a explosé dans une zone industrielle de la capitale Freetown. En Tunisie, Amnesty International s'inquiète du nombre croissant de civils qui font face à des poursuites devant des tribunaux militaires, dans certains cas simplement pour avoir critiqué le président Kais Saied depuis que celui-ci s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, a dénoncé ce mercredi l'ONG Amnesty International. Le président Saied a émis le 22 septembre un décret suspendant plusieurs articles de la Constitution de 2014 et contenant des mesures exceptionnelles à travers lesquelles il concentre tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un tribunal américain a autorisé mardi la transmission à une commission d'enquête parlementaire de documents liés à l'assaut contre le Capitole du 6 janvier par des partisans de Donald Trump. L'ancien président tentait de les garder au secret. Les précisions de John Lydon.
La Cour soutient que l'intérêt du public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législatives et exécutives d'étudier les événements qui ont mené au 6 janvier, a écrit la juge fédérale Tania Chutkan. L'ancien président Donald Trump souhaitait empêcher la diffusion à la commission d'enquête de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, de centaines de documents incluant les listes de personnes qui lui avaient rendu visite ou l'avaient appelé le jour de l'attaque du Capitole. M. Trump avait invoqué le privilège de l'exécutif à garder secrètes certaines informations. Les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n'est pas président, a retorqué la juge Chutkan dans le document judiciaire. Selon le Washington Post, les avocats de Donald Trump ont déjà fait part de leur souhait de faire appel de cette décision.
La chancelière allemande Angela Merkel a demandé au président russe Vladimir Poutine d'agir contre l'instrumentalisation des migrants par le régime du Bélarus, a indiqué aujourd'hui son porte-parole. Les Européens accusent depuis des mois le président bélarusse Alexandre Loukachenko de nourrir la crise en délivrant des visas à des migrants pour se venger des sanctions européennes prises à l'encontre de son pays pour sa répression de l'opposition depuis la présidentielle de 2020. Le Royaume-Uni, pays hôte de la COP26 à Glasgow, a publié aujourd'hui un projet de déclaration politique exhortant les États à revoir à la hausse d'ici la fin 2022 leurs engagements pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer l'extinction progressive des subventions publiques pour le charbon et les énergies fossiles. Le texte sera négocié au cours des prochains jours par les diplomates des quelques 200 pays représentés à la 26e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui doit s'achever vendredi. Le groupe djihadiste État islamique, auteur récemment de plusieurs attentats sanglants en Afghanistan, est plus ou moins sous contrôle et n'est pas une grande menace, a assuré ce mercredi le gouvernement taliban en précisant avoir arrêté 600 de ses membres ou sympathisants présumés depuis le mois d'août. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a estimé lors d'une conférence de presse à Kaboul que, contrairement à son homologue au Moyen-Orient, la branche de l'État islamique en Afghanistan était surtout composée de combattants locaux et que sa présence en Afghanistan n'était pas une menace pour d'autres pays. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Après son entrée au Nigeria en octobre dernier, la plateforme de paiement numérique MFS Africa a procédé à une levée de fonds de 100 millions de dollars. Selon Ecofin, la FinTech compte se lancer dans de nouveaux marchés en Afrique, renforcer son équipe et poursuivre ses investissements sur le continent. L'année dernière, MFS Africa a ouvert des bureaux en Côte d'Ivoire, en Ouganda, en RDC et au Kenya. Face à la popularité croissante des crypto-monnaies, le Cameroun prépare un texte pour réguler cette activité. Minpostel, le ministère des Postes et Télécommunications, va organiser un séminaire le 15 novembre à Yaoundé sur les enjeux, opportunités et risques de la crypto-monnaie au Cameroun. La justice européenne a validé aujourd'hui une amende de 2,4 milliards d'euros infligée par Bruxelles à Google pour pratiques anticoncurrentielles. Le tribunal de l'UE, basé à Luxembourg, a rejeté un recours du géant américain de l'Internet en constatant qu'il avait bien abusé de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits par rapport aux comparateurs concurrents.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Demain commence une semaine décisive pour les matchs qualificatifs au Mondial à Qatar 2022, zone Afrique. Les deux dernières journées des éliminatoires se disputent durant cette fenêtre internationale. Pour rappel, deux pays se sont déjà qualifiés pour les barrages. Il s'agit du Sénégal et du Maroc. Il reste encore 8 autres places qualificatives et plusieurs chocs en vue. 8 matchs au programme demain jeudi dont Rwanda-Mali. Les Maliens sont en tête de leur poule avec 10 points, soit 2 de plus que l'Ouganda qui reçoit le Kenya. À suivre aussi Bénin-Madagascar, Tanzanie-République démocratique du Congo, Éthiopie-Ghana ou encore Togo-Sénégal. Une rencontre sans enjeu pour les Lions de la Teranga, tout comme le match entre les deux autres pays du groupe Congo-Namibie. Rappelons que seul le premier de chaque poule se qualifie pour les matchs de barrage. Vendredi, il y aura un duel à distance entre le Burkina Faso et l'Algérie. Concurrent direct pour la première place du groupe A, les étalons font face au Niger et les Fenech jouent Djibouti avant un choc attendu mardi entre les deux principaux adversaires. Les Burkinabés comptent 10 points tout comme les Algériens champions d'Afrique en titre, mais ces derniers sont en tête de la poule grâce à la différence de but. Pour l'international algérien qui évolue à Galatasaray en Turquie, Sofiane Feghouli, son équipe doit pouvoir passer ce cap.
On a la chance d'avoir un coach exceptionnel en équipe nationale qui a les mots, il sait faire jouer la concurrence, il donne la chance à tout le monde et on a un groupe qui veut aller de l'avant et qui ne se relâche pas. Et la preuve, comme j'ai dit, 31 matchs sans défaite, ça prouve non seulement le travail, mais aussi le talent et l'abnégation de cette équipe.
Sofiane Feghouli, international algérien. La footballeuse du PSG, Aminata Diallo, a été placée en garde à vue ce mercredi suite à l'agression la semaine dernière de son équipière en club et en équipe de France, Keira Amraoui. Les deux joueuses, de retour d'un dîner organisé par le club jeudi dernier, étaient présentes dans le même véhicule au moment où des inconnus ont commis l'agression envers Amraoui, la frappant au niveau des jambes avec une barre de fer. Selon le journal, l'équipe Diallo aurait été retenue par les agresseurs, mais pas victime de violences physiques, précise une source au sein du club. NBA, Giannis Antetokounmpo a remis Milwaukee sur la voie du succès en marquant 31 points et en prenant 16 rebonds lors de la victoire des Bucks chez les Philadelphia Sixers, 118-109. Utah a battu Atlanta 110-98 et les Los Angeles Clippers ont dominé leur voisin Portland 117-109.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président béninois Patrice Talon a atterri à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou aujourd'hui avec les 26 trésors royaux restitués par la France. Un moment chargé d'émotions et de joie, des trésors de guerre ayant appartenu au roi d'Abomey qui reviennent au bercail près de 130 ans après avoir été déportés vers la France. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
C'est dans la clameur qu'a été salué le cortège transportant les 26 œuvres dont l'acte de restitution officielle a été signé mardi à Paris par les ministres de la Culture du Bénin, Jean-Michel Abimbola, et de la France, Roselyne Bachelot. La signature de l'acte de transfert de propriété a eu lieu en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Ici à Cotonou, la classe politique, toute tendance confondue, applaudit le retour de ces œuvres et salue le leadership du président béninois.
Le président Patrice Talon peut ne plus rien faire. Et rien que par cet acte qui vient de poser et qui, selon moi et selon beaucoup de Béninois, va sonner le glas de l'errance que nous avons depuis des décennies. C'est notre âme.
Nous n'avons jamais pensé, personnellement, que ces deux mots vivants, que ces œuvres viendront au Bénin. Donc il faut saluer le travail immense, patriotique du président Patrice Talon.
C'est une très bonne chose.
Tout le long de l'aéroport international de Cotonou, les populations surexcitées débordent de joie.
Vraiment, c'est très bon que ce qui nous a été volé en réalité nous soit restitué.
Crainte? Non. Il n'y a pas de crainte puisque déjà dans nos musées, il y a d'autres objets. Ces objets sont toujours là. Ça veut dire que l'entretien ne sera pas un grand problème.
Il faut insérer tout ça là dans l'éducation. On doit apprendre nos enfants, aux populations, que voilà notre richesse. Voilà ce qu'on a, ce que les aïeux nous ont laissé, ce que nos ancêtres nous ont laissé.
L'ancien président Yahya Boni salue la démarche de son successeur et le félicite d'être allé jusqu'au bout d'une mission qui n'était pas gagnée d'avance. Une victoire qui, selon lui, fera date dans l'histoire culturelle de l'Afrique et du monde. Les gardiens de la tradition souligne qu'une fois rentrés, ces trésors royaux seront réactivés, purifiés.
Dès que nos divinités, sur le plan spirituel, seront de retour, nous allons procéder premièrement, prioritairement, à des purifications. On doit procéder à des cérémonies d'offrandes.
Il y a des travaux à faire sur ces trucs-là. Spirituellement. Ils sont arrivés dans ce pays pour nous amener du bonheur. Mais sur quelle aura qu'ils vont rester pour nous faire ce bonheur-là? S'il y a des purifications à faire, on va les purifier d'abord.
Pour les métaphysiciens Florent Ressou et Abdou Rahimi Amoussa, ces trésors royaux vont bouleverser bien de choses au Bénin. Pour eux, ce ne sont pas que des objets culturels qui ont été restitués. Ils ont une âme et une certaine divinité.
Le retour de ces biens culturels, c'est une revanche à prendre. Et je pense que le fait même de réussir cela donne un plus au Bénin, du point de vue culturel, du point de vue spirituel.
Ces œuvres sont d'abord ce que nous appelons des scaphandres agissants, pas un code opératoire appartenant uniquement à son commanditaire.
Il faudra tout de même tenir le pari de prendre soin de ces œuvres pour espérer en recevoir davantage. Les biens culturels restitués sont constitués de trônes et de statues qui ont appartenu au roi d'Abomey. La plupart ont été déportés à la suite du roi Béhanzin, dernier souverain ayant lutté contre la pénétration coloniale en 1892. De Cotonou, Sénateur Adandé pour VOA Afrique.
Les tensions préélectorales ont gagné mercredi la capitale sénégalaise Dakar, où deux farouches opposants au pouvoir, Ousmane Sonko et Barthélemy Diaz, ont été interpellés lors de heures ravivant le spectre des émeutes de mars. Les trois hommes ont en commun d'avoir vu ou de voir les ennuis judiciaires troubler leur dessein politique. Tous crient au complot ourdi par le pouvoir et dénoncent une justice instrumentalisée. Retour sur une journée de tension à Dakar avec notre correspondant de la capitale sénégalaise, Sedina Abagay.
En route pour le tribunal de Dakar, le cortège de Barthélemy Diaz, accompagné d'Ousmane Sonko, est dévié au niveau du point E. Les forces de l'ordre leur indiquent qu'ils ne peuvent pas passer par l'université de Dakar pour éviter des troubles à l'ordre public. Malgré la ténacité des deux leaders, les gendarmes dressent un barrage et opposent un refus catégorique.
On n'y a pas notifié de renvoi.
Mais escortez-nous pas.
Barthélemy Diaz s'emporte et demande aux forces de l'ordre de savoir raison garder.
Ay sénégalais ngeen nek len nit nek len nit yorna fetel ni yenn nek len nit nek len nit nek len nit.
Ces dernières répondent par une salve de grenades lacrymogènes. Les leaders de l'opposition sont pris en tenaille entre les éléments de la police et ceux de la gendarmerie. Dispersés de force, les militants crient leur ras-le-bol face à cette situation qui se répète.
Ils ont convoqué notre candidat à la mairie de Dakar. Sur le chemin pour aller répondre, on lui annonce que le procès a été renvoyé. Ils n'ont pas le droit de lui imposer la voie à prendre pour aller au tribunal. La jeunesse sénégalaise est déterminée et elle fera face à cette injustice. Macky Sall, en 2009, quand il a été convoqué au tribunal, il avait publiquement fait savoir qu'il allait emprunter l'itinéraire de son choix. Il n'a qu'à se rappeler de ce jour-là.
Finalement, Barthélemy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés par les éléments de la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale à hauteur du quartier de la Médina. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, l'opposition conserve le fauteuil de gouverneur dans l'état d'Anambra, dans le sud-est, suite à l'élection du week-end dernier. Charles Soludo, 61 ans, un ancien chef de la Banque centrale, a remporté le scrutin, battant les candidats de l'opposition et du parti au pouvoir. Le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
The requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected.
Charles Chukwuma Soludo a remporté 19 des 21 circonscriptions établies par la Commission nationale électorale indépendante. Il accepte le mandat qui lui confie le peuple.
J'accepte les résultats de l'élection 2021 du gouverneur de l'État d'Anambra comme annoncé par la CENI. C'est la volonté de Dieu et le mandat donné par le peuple. Depuis que les populations d'Anambra ont sollicité notre leadership il y a 12 années, nous sommes restés persévérants pour atteindre ce moment.
Originaire d'Anambra, il devient ainsi le sixième gouverneur de cet État depuis le retour du Nigeria à un régime civil en 1999. Soludo a été gouverneur de la Banque centrale du Nigeria entre 2004 et 2009. Candidat pour la All Progressive Grand Alliance, son parti gouverne cet État depuis plus d'une décennie. Victor Oumé, ancien président de All Progressive Grand Alliance.
Nous avions toujours tenu nos promesses de campagne. C'est pourquoi, à chaque élection, depuis 2003, les populations d'Anambra ont continué à voter pour l'APGA.
L'APC, le parti au pouvoir, arrivé en troisième position, n'a gagné aucune circonscription dans cet État. Cette défaite symbolise un rejet du parti avant la présidentielle de 2023. Le représentant du parti au pouvoir n'a même pas signé les résultats définitifs.
Nous ne pouvons pas signer parce qu'on n'a pas confiance. Lorsque vous signez quelque chose, cela veut dire vous acceptez et votre nom est marqué. Nous ne faisons pas confiance à tout le processus.
Mais certains groupes de la société civile avaient déployé des observateurs et ont salué le bon déroulement. Ene Obi est la directrice de l'ONG Action Aid au Nigeria.
Even though there were pockets of disturbances.
Malgré quelques incidents, nous pouvons dire en général que l'élection était pacifique. Concernant le matériel électoral et le personnel de la CENI, ils sont arrivés en retard dans 67% des bureaux de vote que nous avions visités.
Le nouveau gouverneur élu, Charles Soludo, va prêter serment mars prochain à la fin des deux mandats du gouverneur sortant Willy Obiano, qui est aussi membre du parti All Progressive Grand Alliance. La campagne électorale a été émaillée de violence dans cette région où le mouvement séparatiste IPOB, ou peuple indigène du Biafra, est actif. Ce mouvement avait même menacé de perturber le scrutin si son leader Nnamdi Kanu n'était pas libéré. Mais l'État avait déployé de gros moyens pour assurer la sécurité. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Nous continuons aujourd'hui notre série de reportages sur le parcours d'élus américains d'origine africaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Esther Agbadje, députée régionale de l'État du Minnesota. Les élus africains, c'est une production de Betty Ayoub et Carole Gainsbourg. Le récit est de Ginny Kapumbu-Villa.
Je m'appelle Esther Agbadje, je suis députée régionale. Je représente le district 59B qui couvre le centre-ville de Minneapolis et certaines parties du nord de Minneapolis. C'est un quartier assez vivant. Il y a de la diversité dans ses classes économiques et il y a de la diversité dans ses groupes ethniques et raciaux. C'est vraiment juste un endroit agréable et je suis vraiment heureuse d'être leur représentante. Mes parents sont arrivés aux États-Unis dans les années 1980. Ils ont tous les deux émigré du Nigeria et ils sont venus au Minnesota pour fréquenter l'université du Minnesota où ils se sont rencontrés. J'ai toujours eu des emplois qui consistaient à aider les gens ou à m'assurer que les gens disposaient de ressources adéquates pour faire quelque chose de mieux pour eux-mêmes. Donc, une chose qui m'intéressait était de savoir comment aider plus de gens à la fois. Souvent, cela signifie utiliser un levier du gouvernement. C'est pourquoi j'ai toujours été enthousiaste à l'idée de me présenter aux élections. L'opportunité s'est présentée pour le cycle électoral 2020 et j'ai sauté dessus.
Je suis née et j'ai grandi ici dans le Minnesota et je suis passionnée par la représentation du district 59B parce que je veux construire le district.
Il y a une très grande différence entre faire campagne et légiférer. Quand vous faites campagne, vous êtes plein d'idées et vous êtes plein d'espoir et vous êtes plein de visions qui restent avec vous une fois que vous commencez à légiférer. Et puis il y a maintenant, au Minnesota, nous avons un total de 201 législateurs entre nos chambres des représentants et notre Sénat. Et donc vous êtes seul avec 200 autres personnes que vous devez convaincre pour pouvoir apporter votre idée et les idées de vos électeurs afin qu'elles se concrétisent pour créer des politiques et des changements. Donc il y a beaucoup plus de négociations une fois que vous devenez législateur.
The member from Hennepin, Representative Agbadje.
Merci, Madame la Présidente et Monsieur les membres. Cette pandémie a exacerbé les problèmes que nous avons en matière de logement. Et ce projet de loi, bien que pas tout ce que nous voulons, atténuera en quelque sorte le pire de ces problèmes, en particulier pour les personnes qui ont perdu leur emploi et ne peuvent pas payer le loyer. Beaucoup de gens parlent de pandémie, affirmant qu'elle a montré les inégalités et l'injustice dans notre société. Tout ce que la pandémie a fait, c'est juste faire de la lumière sur cela. Nous sommes aux prises avec la crise du logement au Minnesota depuis des années. Et c'est l'un des domaines où je souhaite que l'État du Minnesota soit courageux et intervienne sur la manière de fournir un logement convenable et digne de tous les membres de notre société.
Bri Sharkey-Smith, vice-présidente, communication et marketing.
Je pense à tout le travail que vous avez fait sur le logement en particulier. Le simple fait de le voir se concrétiser à partir de votre point de vue, c'est si précieux. Parce que sans cela, nous n'obtiendrons pas les solutions dont les gens ont vraiment besoin.
Vous savez, quelques autres législateurs et moi avons publié des déclarations qui vont à l'encontre de la direction traditionnelle du Parti démocrate des fermiers et travailleurs. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que nous avons besoin de toutes ces perspectives. Ainsi, on se fait une idée réelle de ce à quoi le vrai peuple fait face. Et donc, je pense que nous obtenons plus de gens qui sont, vous savez, axés sur le public, sur la justice. Je pense que cela signifie que nous pouvons faire beaucoup mieux pour l'État de Minnesota. Je pense qu'à travers le monde, il y a des gens qui, avec moins de moyens, donc moins d'argent, peut-être des gens appartenant à des groupes marginalisés dans leur pays, se tiennent debout. Je pense que 2020 a été une bonne année pour ça, notamment avec la pandémie. Je pense que le mouvement qu'on a vu au Nigeria, ce sont des jeunes qui se levaient, se mettaient debout, notamment durant la pandémie. Je pense qu'au Nigeria, on a vu des jeunes se lever pour réclamer un gouvernement qui travaille pour eux.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente